La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Allons, afin de commencer, invoquer la présence du Seigneur et j'invite ceux qui le peuvent à la prière, à se prosterner si c'est possible et autrement à incliner la tête. Éternel notre Dieu, une fois de plus, c'est avec un grand privilège, le sens d'une haute reconnaissance envers toi que nous venons nous incliner devant ta face. Et nous aspirons une fois de plus à être bénis par ta parole ainsi que la compréhension de ta parole par-dessus tout et durant cette heure. Et c'est pour cela que nous te demandons de manifester à nous et que tu puisses toucher l'entendement, mais aussi les cœurs de chacun. Et encore une fois, veuille être avec ton serviteur qui aura partagé ce message et que tu puisses, Seigneur, nous montrer ce que tu attends de nous et que tu puisses diriger toutes choses durant cette heure et dès maintenant et à jamais dans nos vies. Nous t'en prions, Jésus. Amen.
Amen.
Le sujet que nous allons aborder durant cette heure concerne Israël et son identité. Et le sujet est en fait une question que nous à laquelle nous allons tâcher de répondre. C'est est-ce que les Israélites sont noirs? OK? Les Israélites sont-ils noirs? Et la question, elle est posée au présent. La raison de cette présentation est qu'il y a un mouvement, d'accord, depuis quelque temps, qui enseigne, OK, que les Israélites étaient, mais aussi sont les noirs, d'accord? Et que... Voilà. Donc, je ne vais pas en dire plus que ça, parce que je pense que vous avez, et plus le temps va passer, plus on va entendre parler de ça. Et vous avez peut-être certainement déjà entendu parler de ça. Si ce n'est pas le cas, attendez encore un peu et vous allez recevoir un message WhatsApp ou une vidéo qui va tomber sur vous. Voilà. Mais avant d'aborder... d'entrer dans le vif du sujet, je tiens d'abord à clarifier un point, d'accord? Vous savez, je suis métisse et il y a une raison à cela, OK? Si je suis métisse, moi, c'est parce que ma mère est blanche, d'accord? Mais que mon père est noir, OK? Pourquoi je, comme en Martinique, je prends le temps de dire ça ici? C'est parce que c'est un sujet qui... parce que vous l'avez constaté, qui a tendance à vouloir élever une race au-dessus de l'autre, d'accord? Parce que systématiquement, si on prend son temps de pouvoir prêcher ce sujet-là, de dire que ce sont les Noirs qui sont israélites, etc., etc., c'est pour les placer au-dessus des autres, d'accord? Mais sachez que moi, qui suis métisse, alors si vous êtes noir, comme on peut l'entendre aujourd'hui, vous me considérez peut-être comme un blanc. Si vous êtes blanc, vous allez peut-être me considérer comme un noir. Ou quelqu'un qui est entre les deux et qui ne sait pas où se mettre. Mais sachez que j'ai une mère qui est blanche et j'ai un père qui est noir, d'accord? Et donc, je n'ai aucun problème que ce soit avec l'une ou l'autre. J'ai passé les 20 premières années de ma vie en Martinique, d'accord? Je suis martiniquais d'origine, je suis né en Martinique, j'ai grandi en Martinique. Je parle couramment le créole, en plus de l'anglais et du français. Et donc, j'ai grandi avec... dans un environnement qu'on pourrait qualifier de noir, en fait, d'accord? Donc, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et maintenant, depuis 10 ans, je vis en métropole en France, d'accord? Dans le pays de mes grands-parents côté maman, donc pour des raisons qui sont ministérielles. Donc, voilà. Donc, je dis cela, c'est pour déjà abattre tous les préjugés qui pourraient se présenter parce que... ce n'est pas une... Enfin, malheureusement, c'est une question qui est chargée D'accord? C'est un enseignement qui est chargé de préjugés et, je dirais, de vouloir attribuer une importance à une ethnie plus qu'à une autre. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Et nous allons procéder en deux étapes. La première, l'Ancien Testament, et la deuxième, le Nouveau Testament. Commençons par le commencement avec l'Ancien Testament et très précisément par la généalogie post-diluvienne, c'est-à-dire après le déluge. En Genèse chapitre 6, versets 9 et 10, nous lisons « Voici les descendants de Noé. Noé fut un homme juste, intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu et Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. » D'accord? Et donc, nous avons là les trois descendants de Noé, d'accord? Et il faut savoir que ce sont ces trois descendants-là qui sont entrés dans l'arche avec Noé et donc qui en sont sortis. Et on le lit en Genèse chapitre 7, versets 11 à 13. « En l'an 600 de la vie de Noé, au second mois, au 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme éclatèrent et les bonds des eaux s'ouvrirent. Et la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. En ce même jour-là, Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, et la femme de Noé, et les trois femmes de ses fils avec eux, entrèrent dans l'arche. » D'accord? Donc, nous avons là ceux qui sont entrés dans l'arche. Et bien entendu, si vous lisez la suite du récit, vous allez voir que c'est eux qui en sont sortis. D'accord? Donc, voilà des textes qu'il nous faut déjà considérer. Mais il y a un autre passage, et c'est tout un chapitre en fait, que je vous inviterai à considérer attentivement chez vous. Mais nous allons le résumer, d'accord? C'est le chapitre 10, d'accord? De Genèse. Genèse chapitre 10, d'accord? Au verset 1, on nous parle de la généalogie post-diluvienne. On nous présente ces trois messieurs que sont Noé, Cham et Japhet, d'accord? Et puis après, vous avez du verset 2 à 5, vous pouvez d'ailleurs le suivre dans vos Bibles, ou si vous pointez les versets, vous allez voir que ce que je vous dis est correct. Du verset 2 à 5, on vous parle de la descendance de Japhet, d'accord? Et les ancêtres, donc Japhet, et l'ancêtre des races japhétites, parmi lesquels se trouvaient donc Madaé, c'est-à-dire les Mèdes, Javan, les Grecs, et plusieurs nations qui vivaient à l'époque de l'Ancien Testament, dans ce qui est maintenant l'Asie mineure et le sud de la Russie. D'accord? Donc, voilà ce qu'il en est pour Japhet. D'accord? Maintenant, qu'en est-il de Cham? D'accord? Alors, certains disent Cham, d'autres disent Cam. En fait, en hébreu, c'est Ham, comme en anglais. Bon. Je vais dire la prononciation Cham, d'accord? On va partir sur ce principe-là, parce qu'il y a plusieurs prononciations. Hein. Eh bien, on a sa généalogie qui est présentée du verset 6 au verset 20. Et il faut savoir que Cham est l'ancêtre de Cush ou de Cush, qui sont les Éthiopiens, de Mitzraïm, c'est-à-dire les Égyptiens, de Put, les Libyens, d'accord? Et Canaan, c'est-à-dire les Cananéens, d'accord? Voilà ce qu'il en est pour Cham, ok? Donc, notez cela, hein, que Cham, il est l'ancêtre des Éthiopiens, des Égyptiens, des Libyens et des Cananéens, ok? Bon, maintenant, Sem, qu'en est-il de lui? Eh bien, du verset 21 au verset 32, on nous fait comprendre qu'il est l'ancêtre de la race sémite, à laquelle appartient Assur, c'est-à-dire les Assyriens, Aram, donc les Araméens, Héber, les Hébreux, ainsi que les Babyloniens et les Arabes. D'accord? Donc, Sem, il est l'ancêtre de quelle nation? Assur, donc les Assyriens, les Araméens, les Hébreux, les Babyloniens et les Arabes. D'accord? C'est clair ça? Les Hébreux descendent de Sem. Et petit rappel, les Éthiopiens et les Égyptiens descendent de qui? Avec les Cananéens, ils descendent de Cham. Ok. Il faut bien saisir ça. Les Israélites étaient-ils noirs? Pour répondre à la question au présent, il nous faut d'abord y répondre au passé. Les Israélites étaient-ils noirs? Cham, mes amis, était noir. En effet, dans The Exhaustive Dictionary of the Bible Names, à la page 93, il nous donne la définition suivante du nom de Cham. Chaleur, brûlant, chaud, noir, sombre. Le nom représente les caractéristiques, en fait. D'accord? Donc, lorsque vous avez quelqu'un qui porte ce nom-là, c'est qu'on le lui a donné en raison de sa caractéristique, en fait. D'accord? Donc, le nom même qu'il porte indique quelque chose sur son apparence. OK? Donc, s'il y avait l'un des fils de Noé qui était noir, par rapport au nom, hein, c'est bien Cham. D'accord? D'ailleurs, à ce stade, j'aimerais ajouter dire quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, dans le mouvement de « Les Israélites sont-ils noirs ?» Enfin, « Les Israélites sont noirs ?»« Israël noir », comme on dit en résumé. Eh bien, on va jusqu'à se poser la question « Comment les Blancs sont apparus ?» Et vu que d'après cette théorie, Dieu a créé des hommes noirs, en fait, les Blancs viennent d'où, en fait ? Ça va jusque-là, en fait. Ça va jusque-là. D'où viennent les hommes blancs? Puisque Dieu a créé des hommes noirs. Alors, les blancs, d'où ça vient? Il y a toutes sortes de théories, bref, se pose plein de questions. Mais en tout cas, là, on a quelqu'un qui porte un nom, d'accord? Et on voit de quoi il s'agit. Donc, Cham était noir, d'après son nom, ok? Abraham, il était quoi? C'était un hébreu. Et un hébreu, mes amis, ça descend d'Héber, d'accord? Quand vous prenez Genèse 11, versets 19 à 26, vous avez ici, j'ai souligné les différents points de généalogie. Vous avez Héber qui a engendré Péleg, Péleg a engendré Réu, Réu a engendré Serug, Serug Nakor, Nakor Taré, et lui-même a engendré Abraham, d'accord? Et encore, Nakor et Haran, ok? Donc, vous voyez, nous voyons bien que Abraham est un descendant de Héber. Et Héber, c'est de lui que descendent les Hébreux. Donc, Abraham était un Hébreu, d'accord? Abraham à l'époque, mais après il est devenu Abraham, ok? Donc, les Israélites sont des Hébreux car ils descendent d'Abraham. En effet, 2 Corinthiens 11, verset 22, « Sont-ils Hébreux, dit Paul? Je le suis aussi. Sont-ils Israélites? Je le suis aussi. Sont-ils la postérité d'Abraham? Je le dis aussi. » D'accord? Donc, c'est clair. OK? C'est clair. Quand on parle d'Israël, donc de Jacob, son nom a été transformé en Israël et qui a donné naissance à la nation d'Israël, il s'agit de la descendance des Hébreux et Abraham en fait partie. J'aimerais qu'on s'intéresse maintenant à un personnage dans la Bible, qui est la femme de Moïse. D'accord. Moïse, qui était un Israélite, un Hébreu, et donc un Sémite. Eh bien, il faut savoir que la femme de Moïse, il nous est dit qu'elle était éthiopienne, et donc descendante de Cham. Nombre 12, verset 1. Or, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait épousée, car il avait pris une femme éthiopienne. D'accord? Il avait pris une femme éthiopienne. Encore une fois, je vous rappelle, Moïse était un Hébreu, sémite. Et là, on nous dit que sa femme était une éthiopienne. D'accord? Je vous pose une question. De quelle couleur étaient les Éthiopiens de la Bible? Noir. Mais la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Ok. Jérémie 13, verset 23. L'Éthiopien peut-il changer sa peau et le léopard ses taches? Alors aussi, vous pourrez faire le bien, vous qui êtes instruits à faire le mal. On remarque ici qu'au début du verset, on a deux similitudes. On prend deux choses pour expliquer un point. L'Éthiopien peut-il changer sa peau et le léopard ses taches? D'accord. Pour savoir ici de quelle couleur sont les Éthiopiens, normalement, il suffit de vous poser la question de savoir de quelle couleur sont les taches des léopards. D'accord? Nous savons de quelle couleur sont les taches de léopard. OK? Mes amis, les Éthiopiens sont généralement noirs. D'accord? Les Éthiopiens sont généralement noirs. Mais tel ne fut pas le cas de la femme de Moïse. Un auteur écrivit ce qui suit dans The Spirit of Prophecy, volume 1, à la page 286, paragraphe 2, et c'est Ellen White. Elle, donc Myriam, la sœur de Moïse, s'est plainte de Moïse parce qu'il avait épousé une femme éthiopienne au lieu de prendre une femme parmi les Hébreux. La femme de Moïse n'était pas noire, mais son teint était un peu plus sombre que celui des Hébreux. Pourquoi l'auteur dit-il cela? C'est parce que, rappelez-vous d'une chose, la femme de Moïse, qui était Séphora, était la fille de certains Jéthro. D'accord? Or, Jéthro était un prêtre de Madian, donc un Madianite, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous vous rappelez d'où viennent les Madianites? Qui ont-ils pour ancêtres? Vous le savez, vous vous en rappelez ou pas? Vous ne vous en rappelez pas. Eh bien, mes amis, il faut savoir que les Madianites, ils descendent, ils descendent d'Abraham, en fait. Ce sont des Sémites. Pourquoi? Lorsque vous remontez la généalogie, vous voyez que Madian a pris naissance de l'union d'Abraham avec Keturah, en fait. D'accord? Sarah est mort à un moment, et après, Abraham a refait sa vie, et il s'est marié, il a eu des enfants avec Keturah, et c'est avec Keturah que Madian est arrivé. D'accord? Donc, Madian, en fait, les Madianites sont des Hébreux, en fait. Et Séphora, qui était la femme de Moïse, est la fille d'un homme qui était Madianite. Donc, le texte nous dit qu'elle est éthiopienne, mais elle vient de Madian, en fait. Donc, la conclusion qu'il y a, c'est que elle a peut-être sa mère qui était éthiopienne et son père était Madianite. Et donc, il y a eu peut-être, comme moi, un métissage, en fait. Vous comprenez? Donc, vous avez en face de vous un Martiniquais qui ne ressemble pas à un Martiniquais. Et pourtant, je suis Martiniquais. Mais je n'ai pas la couleur de peau d'un Martiniquais, je dirais, lambda, normal, puisque mon père, qui est Martiniquais, a eu des enfants avec ma mère qui est blanche, et donc, vous avez des enfants métis et qui pourtant sont Martiniquais, d'accord? Eh bien, c'est, je pense, la même chose par rapport à la femme de Moïse. Elle n'était pas noire, bien qu'elle était éthiopienne, mais parce qu'elle avait certainement dans ses... Le texte ne le précise pas, mais avec les deux informations, on peut supposer que... Il y avait un métissage. Et c'est ce que la servante nous dit ici. Elle nous dit que la femme de Moïse n'était pas noire, mais son teint était un peu plus sombre que celui des Hébreux. Alors, mes amis, si vous avez quelqu'un qui n'est pas noir, mais qui a le teint un peu plus sombre que celui des Hébreux, je vous pose la question, est-ce que les Hébreux sont noirs? Non, mes amis, les Hébreux ne peuvent pas être noirs. Vu ce qu'il nous est dit ici. Et Jésus, de qui est-il descendant? Matthieu 1:1, livre généalogique de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus est fils d'Abraham, d'accord? Donc, venir et dire que oui, les Hébreux sont noirs, etc. Et on va même jusqu'à dire que Jésus était noir, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans la couleur de peau, quel était le teint, parce qu'en Martinique, après cette présentation-là, il y a une jeune fille qui est venue me demander, « Pasteur, de quelle couleur Jésus était-il? Est-ce qu'on le sait? » J'ai dit, « Écoute, je ne sais pas. » Et en réalité, ce n'est pas ça qui nous intéresse, sa couleur de peau, en fait. Ce n'est pas ça qui devait nous intéresser. Mais notez déjà ici que cette théorie se base sur un point erroné, d'accord? En voulant établir quelque chose, on part sur un point erroné, d'accord? On tord le texte pour faire dire au texte ce qu'il ne veut pas dire, d'accord? Donc, les Hébreux n'étaient pas noirs, ok? Ils ne descendaient pas d'un homme qui avait cette couleur-là, d'accord? Ceux qui étaient foncés de peau, d'accord? C'était les Éthiopiens, d'accord? Qui eux-mêmes, on l'a vu, descendent de Cham, d'accord? Donc, et entre autres avec les Égyptiens, les Libyens, etc. Ok? Donc, voilà les descendants de Cham, d'accord? Mais les Hébreux ne descendent pas de Cham, ils descendent de Sem. Ok? Ok. Il faut savoir que avec cette théorie d'Israël noir, parce qu'elle n'est pas aussi simple que ça, et il y a encore d'autres aspects, c'est que, étant donné que, d'après la théorie, Israël est noir, eh bien, on remet en question, eh bien, Canaan, d'accord? Beaucoup de gens qui croient en cette théorie croient que Canaan, la terre promise, c'est pas le Moyen-Orient, mais c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Et c'est pour ça que vous avez le mouvement panafricain, d'accord? C'est le retour en Afrique. Et donc, vous avez des gens qui veulent retourner, ils disent que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, etc., etc. D'accord? Mais, là aussi, il nous faut nous poser la question, où se trouvait Canaan? Il nous faut savoir que l'Égypte, dans la Bible, est le pays de Cham. En effet, dans le psaume 105, versets 23 à 27, il est dit « Alors Israël vint en Égypte. Jacob séjourna au pays de Cham. Dieu fit fort multiplier son peuple et le rendit plus puissant que ses oppresseurs. Puis il changea leur cœur tellement qu'ils haïrent son peuple et agirent perfidement contre ses serviteurs. Il envoya Moïse son serviteur, Aaron, qu'il avait élu. Ils opérèrent au milieu d'eux ses prodiges et des miracles dans le pays de Cham. » D'accord? Donc, remarquez que là, le pays de Cham, c'est l'Égypte. Et cela nous est confirmé en psaume 78, verset 51, et psaume 106, verset 22. D'accord? Donc, quand on parle d'Égypte, il faut savoir que c'est le pays de Cham. D'accord? Au passage, vous savez où se trouve l'Égypte? Alors, je vous le dis, hein, l'Égypte a toujours, et jusqu'à présent, est toujours sur le continent africain. D'accord? C'est clair, hein? L'histoire ne dit pas le contraire. OK? Bon, OK. Donc, Égypte, pays de Cham. D'accord? OK? Mes amis, la mer Rouge est ce qui sépare l'Égypte de Canaan, d'après la Bible. Lévitique 25, verset 38. « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. » D'accord? Donc, Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte pour leur donner le pays de Canaan. Or, entre les deux, il y a la mer Rouge, d'après ce que dit Hébreux 11, verset 29. « Par la foi, ils passèrent par la mer Rouge comme par un lieu sec. Les Égyptiens, ayant tenté le passage, furent submergés. » Donc, vous avez l'Égypte qui est en face du pays de Canaan et les deux sont séparés par la mer Rouge. Alors, arrivé ici, avant de faire la conclusion, mais que vous avez sans doute déjà compris, parce que je vois des gens peut-être sourire, c'est que, rappelez-vous que Cham est l'ancêtre des Éthiopiens, des Égyptiens, mais aussi des Cananéens. OK? Donc, quand on dit le pays de Cham, il faut comprendre que ce n'est pas que l'Égypte, d'accord? Vous allez le comprendre plus tard. Le pays de Cham s'étendait aussi là où il se trouvait Canaan, en fait, d'accord? Mais les Cananéens, d'accord, se trouvaient de l'autre côté, en fait, ok? Comme on va le voir. Mes amis, si la mer Rouge est ce qui sépare le pays de Cham, l'Égypte, d'avec la Canaan terrestre, la Canaan terrestre ne peut pas être l'Afrique, en fait. C'est juste logique, en fait. Pour arriver à une conclusion, à une telle conclusion, et dire que, ah oui, l'Afrique, c'est la Canaan, c'est la terre que Dieu a promis, etc. Mes amis, il faut juste avoir, je pense, de très mauvaises bases en géographie et avoir, je pense, beaucoup d'orgueil pour dire ça, en fait. C'est juste, ça n'a juste pas de sens, mes amis. Je vous le dis avec beaucoup d'humilité, mais ça n'a pas de sens de dire ça. Ce n'est pas consistant, cohérent, en fait. On ne peut pas dire ça, d'accord? L'Égypte a toujours été et est toujours en Afrique. Et les enfants d'Israël, pour arriver en Canaan terrestre, ils ont dû traverser la mer Rouge. Donc, si vous laissez derrière vous l'Afrique et que vous traversez la mer Rouge, vous vous trouvez où? Au Moyen-Orient, mes amis. Au Moyen-Orient, tout simplement. En Palestine, si vous préférez. Et voilà une image qui clarifie un peu. Ici, vous avez eh bien, l'Égypte ici, en fait. Mais Ham ou Cham, il avait tous ses descendants qui venaient ici, en fait. Et on le voit, les Cananéens, ils étaient là, en fait. Les Cananéens qui descendent de Cham, en fait. D'accord? Mais les Égyptiens, eux, ils étaient ici, en fait. Donc, l'Égypte était appelée le pays de Cham, d'accord? Mais les descendants de Cham étaient aussi de l'autre côté de la mer Rouge, en fait. D'accord? Ok, donc ça, c'est la répartition. Vous avez Cham ici, Sem plus haut et Japheth beaucoup plus au nord. D'accord? La terre fut promise à Abraham. En Genèse 17, verset 8, il est dit: et je donnerai à toi et à ta postérité après toi le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. D'accord? Donc Dieu avait promis de donner à Abraham et à sa descendance en possession perpétuelle le pays de Canaan. D'accord? Or, il faut savoir quelque chose, c'est que la terre qu'on appelle la Palestine, d'accord? C'était le pays des Philistins. En Sophonie 2, verset 5, il est dit: malheur aux habitants de la région maritime, à la nation des Kérétiens. La parole de l'Éternel est contre vous. Canaan, terre des Philistins, ok? Je te détruirai jusqu'à n'avoir plus d'habitants. Notez ici que Philistin vient de l'hébreu Pelisti, d'accord? Notez cela. Maintenant, lisons Exode 15, verset 14. Les peuples l'entendent et ils tremblent. L'effroi saisit les habitants de la Palestine. Et là, le terme hébreu, c'est Pelechet. Donc, vous avez Pelisti qui est à la base de Philistin et Pelechet qui est à la base de Palestine. Okay? Vous voyez que ce sont des mots qui se ressemblent en fait. Donc, la Palestine porte ce nom parce que c'était le pays des Philistins, mes amis. C'était le pays des Philistins. Or, quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge et qu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont arrivés dans le pays de Canaan. Quelles sont les nations qu'ils ont chassées? Notamment, parmi eux, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les Philistins. Donc, c'est pour ça que le Moyen-Orient, là, la terre que vous avez, qu'on a vu tout à l'heure sur la carte, on appelle cela la Palestine, d'accord? Puisque c'est la nation païenne la plus renommée de ce temps-là, en fait, d'accord? Et concernant les limites de Canaan, d'accord? On va plus loin. Il nous en est parlé en Genèse 10, verset 19. Et la limite des Cananéens fut depuis Sidon, en venant vers Guérar jusqu'à Gaza, en venant vers Sodome, Gomorre, Adma et Tseboïm jusqu'à Lécha. Comment traduire ça concrètement sur une carte? Ah ben, quand vous suivez les deux bouts des flèches, vous avez Sidon ici, et vous avez Gaza ici, d'accord? Là, vous avez la Galilée, la Samarie, ok? Et une deuxième carte qui vous donne Guérar et la possible location de Sodome, Gomorre, Zéboïm et Adma, ici en fait. Donc la Palestine, c'est tout ça en fait, tout ça. Pas la Palestine, la Canaan, excusez-moi, parce que la Palestine c'est bien plus grand, mais Canaan, ok, en Genèse 10, verset 19, il est dit, et les limites des Cananéens, d'accord, fut depuis Sidon, en venant vers Guérar, jusqu'à Gaza, en venant vers Sodome, Gomorre, etc. Donc c'est tout ça en fait. Tac, ça remonte ici, là, etc., etc. D'accord? Donc, vous avez tout ce qui est la Canaan et on pourrait aussi incorporer la Palestine dedans. OK? Et je ne sais pas, arrivé ici, ce que vous pouvez penser. Peut-être que vous pouvez croire dans le retour de Jésus, dans l'observation de la loi de Dieu, croire que Dieu a donné le don de prophétie en ces derniers temps. Et ne pas être d'accord avec ça. Mais j'aimerais vous partager une déclaration de la messagère du Seigneur qui va dans le même sens que ce que nous avons dit jusqu'ici. Prophète et roi, page 305, paragraphe 1. Non satisfait de la purification totale du royaume de Juda, le jeune monarque, donc il s'agit de Josias, étendit son œuvre aux parties de la Palestine, jadis occupées par les 10 tribus d'Israël, au faible reste qui leur avait survécu. Donc Josias a vécu après l'arrivée en terre promise par Josué, et elle parle ici, donc que ce soit dans le français comme dans l'anglais, de la Palestine, d'accord? Palestine. Okay. Donc, il est clair que mes amis, on a vu ce qu'il en est pour l'Israël, on a vu ce qu'il en est aussi pour la terre promise. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à l'Afrique, mes amis. D'accord? Je suis désolé de vous le dire, mais ce sont des faits bibliques. Rentrons maintenant dans le Nouveau Testament pour voir ce qu'il en est. Il nous faut savoir, tout d'abord, quand on est dans le Nouveau Testament, c'est que tous les descendants d'Israël ne sont pas israélites. Je veux dire, physiquement parlant, au niveau de la chair, tous les descendants d'Israël, de Jacob, okay, ne sont pas tous israélites. Okay? Paul nous en parle en Romains 9, versets 6 à 10. Ce n'est pas que la parole de Dieu ait failli, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera une postérité de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont réputés être la postérité. Donc, pour l'éclair ici, Dieu avait fait une promesse et il avait dit que c'est en lui que sera ta postérité, en lui, en Isaac. Et on sait ce qui s'est passé. Abraham a fait, malheureusement, il a commis adultère, il a fait un enfant avec Agar, Ismaël. Et est-ce que Ismaël était l'enfant de la promesse? Est-ce que non, mes amis, non. C'est pas parce que, je dirais, physiquement parlant, Sarah était mieux que Agar, c'est pas ça. Mais c'est que la promesse avait été faite à Abraham et à Sarah. Il lui avait dit, ta femme aura un enfant. Mais ils n'y ont pas cru. Et donc, Abraham a fait ses propres œuvres. Et Sarah l'y a poussé. Et donc, il est allé voir une autre femme, il a eu un enfant, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Donc, on voit que c'est vraiment selon la promesse de Dieu. Là, ce n'est pas la question de descendance. Si c'était la descendance, mes amis, alors, eh bien, les du côté d'Ismaël aussi, ils auraient pu être israélites. Ils auraient pu être d'Israël, mais ce n'est pas le cas. D'accord? Ce sont ceux qui ont la foi qui sont israélites, c'est-à-dire enfants d'Abraham. En Galates 3, versets 7 à 9, il nous est dit, « Sachez donc que ceux qui ont la foi sont les enfants d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi a évangélisé par avance à Abraham en lui disant, « Toutes les nations seront bénies en toi. C'est pourquoi ceux qui croient sont bénis avec Abraham qui a cru. » Voyez-vous, c'est ceux qui ont la foi. Là, il ne s'agit pas de ta descendance. Ce n'est pas ta descendance qui détermine si tu es d'Israël ou pas. Ce n'est pas ta couleur de peau, là. Là, on n'est plus à ce niveau-là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la couleur de peau de Jésus ne nous intéresse pas. Qu'il soit blanc comme un mur, ou blanc, beige comme moi, ou je ne sais pas, peut-être même plus foncé que moi. En fait, ça ne nous intéresse pas, en fait. Ce n'est pas ça qui nous intéresse sous le Nouveau Testament, en fait. La couleur de peau, ce n'est pas ça le truc, en fait. C'est la foi que nous avons. C'est ça, en fait. D'accord? Et Jésus-Christ, mes amis, est la postérité d'Abraham en qui ont été faites les promesses. En effet, en Galates 3, versets 13 à 16, nous lisons « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois » afin que la bénédiction d'Abraham se répandît sous les gentils par Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes. Lorsque le contrat a été confirmé par un homme, personne ne le casse ou n'y ajoute rien. » Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, et il n'est pas dit « et à ses postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'une seule, et à ta postérité, qui est Christ. Donc la postérité dont il est parlé ici, c'est Christ en fait. C'est Christ. C'est en lui qu'ont été faites les promesses. Et mes amis, tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ sont enfants d'Abraham, c'est-à-dire enfants de Dieu. Oui, Galates 3, versets 26 à 29. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il ne dit pas, car vous qui êtes de telle couleur de peau, vous êtes tous enfants. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non, 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 non. Non, mes amis, non, 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 non. Ce n'est pas ça. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 27. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, est-ce qu'il dit vous tous les noirs qui ont été baptisés en Christ? Ou vous tous les blancs qui êtes baptisés en Christ? Non. Il dit vous tous qui êtes baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Amen. C'est en Jésus-Christ, mes amis, que nous sommes de la postérité d'Abraham et les héritiers de la promesse. Il n'y a plus ni juif ni grec, mes amis. Il n'y a plus ni libre, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Et c'est intéressant de faire de rapprocher cela. Quand il dit ni homme ni femme, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, et dans certaines civilisations, les femmes, en fait, étaient considérées comme des êtres qui n'avaient pas de conscience. Les hommes avaient droit de vie ou de mort sur leurs femmes. Et c'était la même chose aussi par rapport aux esclaves. Ceux qui étaient libres et qui avaient des esclaves, pareil, ils considéraient que les esclaves n'avaient pas de conscience, qu'ils avaient droit de vie ou de mort sur eux. Pareil pour les juifs. Ils considéraient que les Grecs, c'était une espèce. Oh, les païens, on ne veut pas d'eux. Mais en Jésus-Christ, mes amis, tout ça disparaît. Toutes ces barrières que Satan a mis disparaissent, n'ont plus lieu d'être. Et j'apprécie beaucoup cette déclaration dans Message choisi, volume 2, page 546, paragraphe 1. Quand un pécheur se convertit, il reçoit le Saint-Esprit qui fait de lui un enfant de Dieu et le prépare à occuper une place parmi les rachetés et les troupes angéliques. Il devient co-héritier du Christ. Tout membre de la famille humaine qui se donne au Christ, qui écoute la vérité et lui obéit, devient membre de la même famille. Qu'il soit ignorant ou instruit, riche ou pauvre, païen ou esclave, blanc ou noir, Jésus a payé le prix de son âme. S'il croit en Christ, il est purifié par son sang. D'accord? Le nom du noir est inscrit dans le livre de vie à côté du nom du blanc. Tous sont un en Christ. Naissance, situation, nationalité ou couleur ne saurait ennoblir ou dégrader un homme. C'est le caractère qui fait l'homme. Si un peau rouge, un chinois ou un africain donne son cœur à Dieu avec foi et obéissance, Jésus l'aime quelle que soit sa couleur. Il l'appelle son frère bien-aimé, mes amis. Bien-aimé. Son frère bien-aimé. Et mes amis, Jésus était israélite. D'accord? Et nous pouvons tous, que nous soyons peau rouge, indien, chabin, blanc, noir, quelle que soit ta couleur de peau, mon frère, ma sœur, si tu acceptes Jésus, tu deviens un Israélite. Amen. J'aimerais que nous considérions maintenant le rassemblement final d'Israël à la fin des temps. D'accord? Car beaucoup, là aussi, ont achoppé sur certains textes et ont fait des interprétations farfelues à l'égard d'Israël noir, notamment avec les textes que nous allons voir. Apocalypse 7, verset 4, nous parle d'un scellement. Et il est dit, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Le texte précise qu'il y a 144 000 qui ont été marqués d'entre toutes les tribus d'Israël, 12 000 par tribu, d'accord? Et là, quand il est dit d'Israël, et qu'après ce verset-là, on nous présente un peuple qu'on ne peut pas dénombrer, de toute nation, tribu, langue et peuple, tout du moins après le scellement, on nous parle d'une grande foule. Eh bien, les partisans de cette théorie ont dit, ah ben là, regardez, les 144 000, voilà, c'est une sélection, c'est très précis. Mais ça n'a pas, encore une fois, c'est vraiment une interprétation volontaire et humaine, d'accord, que d'arriver à dire que les 144 000 qui sont là seront 144 000 noirs. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup plus de, il y a beaucoup plus à l'heure actuelle que de 144 000 noirs sur la Terre. Et même dans la Caraïbe. Même dans la Caraïbe, je vous dis. Et comme à Martinique, il y a 400 000 habitants. Alors, vous allez me dire, oui, mais il faut qu'ils soient croyants. Mes amis, ça ne tient pas la route. Et nous allons voir pourquoi ça ne tient pas la route. Le message du scellement est celui qui est présenté en Apocalypse 14, versets 9 à 12. Le message qui scelle les 144 000. Apocalypse 14, 9 à 12. Et un troisième ange l'est suivi en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. » C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Qui est-ce que le troisième ange suit? Apocalypse 14, verset 8. Et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin, de la fureur de son impudicité. C'est cet ange-là. Le troisième ange vient après cet ange-là. Or, le texte nous dit qu'il est le troisième ange, au verset 9. Donc, c'est que cet ange-là est le deuxième ange. L'ange du verset 8 qui annonce la chute de Babylone est donc le deuxième ange. Mais cet ange-là, qui est-ce qu'il suit? L'ange qui donne le message au verset 7, mais je vais lire à partir du verset 6. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sous la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, c'est donc cet ange est de ce fait le premier ange. D'accord? Notez une chose, c'est que cet ange qui est le premier ange, il délivre son message à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, n'est-ce pas? Je reprends, hein? Le premier ange au sujet duquel nous lisons en Apocalypse 14, versets 6 et 7, annonce son message à toute nation, tribu, langue et peuple, en clair, à tous ceux qui habitent sur la terre, ok? Or, le fait que le troisième ange suit le deuxième ange et que le deuxième ange suit le premier ange indique, bien aimé, que le deuxième et le troisième annoncent aussi leur message à toute nation, tribu, langue et peuple, à savoir à toute la terre. Vous suivez ça? Vous avez le premier ange qui vole au milieu du ciel et qui annonce son message à toute la terre, toute nation, tribu, langue et peuple. Et il y a deux anges qui le suivent. Cela signifie bien que ces deux anges-là aussi annoncent leur message à toute nation, tribu, langue et peuple. Que ce soit le deuxième, mais aussi le troisième. Le troisième qui est l'ange qui annonce le message du scellement, dont l'œuvre scelle les 144 000. Pourquoi nous précisons cela, mes amis? C'est parce que si le message du scellement est annoncé à toute la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Cela signifie que c'est parmi les habitants de la terre, du milieu de toute nation, tribu, langue et peuple, que Dieu rassemble son peuple. Et cela est confirmé lorsque nous lisons Apocalypse 18, versets 1 à 4. « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit, « elle est tombée, Babylone la grande !» Et elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible, car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. » Verset 4. « Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Le peuple de Dieu, mes amis, c'est qui? N'est-ce pas Israël? Or, là, Dieu dit à son peuple de sortir de Babylone. Et rappelez-vous que ce message est annoncé à toute nation, tribu, langue et peuple. Ça veut dire que le peuple de Dieu est dispersé, en fait. Le peuple de Dieu est dispersé, mes amis. Donc, il n'y a pas lieu de dire que oui, vous avez les Israélites là, ce sont les Noirs, et puis après vous avez la grande foule, alors là c'est tout le monde. Mes amis, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Puisque les 144 000, ils sont rassemblés, Dieu, ils sont scellés parmi toutes les nations, tribus, langues et peuples. Ils proviennent, ils sont éparpillés en fait. Ils sont éparpillés parmi toutes les nations, tribus, langues et peuples. Et c'est de là dont ils viennent. Donc, il ne s'agit pas, en fait, d'une quelconque appartenance ethnique, nationale ou couleur de peau, en fait. Car c'est le message, mes amis, qui scelle. C'est l'acceptation ou le rejet du message qui fait que vous serez ou pas parmi ces 144 000 Israélites. Que cela soit clair, mes amis. Et ça, c'est purement une acceptation simple de la parole de Dieu. C'est notre acceptation ou notre refus du message annoncé par le troisième ange qui déterminera si nous allons faire partie ou pas de ces 144 000 Israélites, mes amis. Ce n'est pas notre couleur de peau ou je ne sais quelle autre chose, mes amis. C'est la réponse que nous allons donner au dernier message que Dieu envoie à l'humanité. Et nous avons une confirmation dans Prophète et Roi, à la page 228, paragraphe 4, jusqu'à 230, paragraphe 1. Les prophéties d'Amos et d'Osée concernant le châtiment divin parlaient aussi de gloire future. Mais pour les dix tribus si longtemps rebelles et impénitentes, il n'était pas fait, je reprends, il n'était fait aucune promesse de retour en Palestine. Elle devait, jusqu'à la fin des temps, errer parmi les nations. Toutefois, Osée prédit à Israël qu'il aurait le privilège de participer à la restauration finale, à la fin des temps, au moment où le Christ apparaîtra comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Le prophète déclarait, « Les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue, sans déphode et sans téraphime. » Après cela, ajoutait-il, ils reviendront, ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Osée 3, versets 4 et 5. En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Ésaïe 10, verset 20. De toute nation, de tout peuple, quelques-uns répondront avec empressement au message « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Ils abandonneront toutes leurs idoles qui les attachaient à la terre pour adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Ils se dégageront de tout ce qui les entravait pour être devant ce monde comme des monuments de la miséricorde de Dieu. Obéissant à la loi de Dieu, ils seront reconnus des anges et des hommes comme ceux qui sont restés fidèles au commandement de Dieu et à la foi de Jésus. » Apocalypse 14, versets 6, 7 et 12, mes amis. Voyez-vous, ici c'est clair. Le témoignage de Jésus, quel esprit de prophétie, et nous croyons qu'il a été manifesté dans le ministère de la servante du Seigneur, Ellen G. White, va dans le même sens que ce que nous avons dit en fait. les 10 tribus n'allaient pas être rassemblées, en fait. D'accord? Par contre, ce qui allait se passer, c'est que ce sont celles et ceux qui vont accepter le message. D'accord? C'est là qu'il y a à nouveau un rassemblement du peuple d'Israël. Mais remarquez que c'est l'acceptation ou le rejet du message qui détermine si on fait partie ou pas, en fait. D'accord? Dieu n'a jamais promis de restaurer, d'accord, l'ethnie, les 10 tribus physiques. Voilà, toi, tu as ta descendance et que tous les descendants allaient être... C'est pas ça, mes amis. Là, il s'agit du message. C'est celles et ceux qui acceptent de garder les commandements de Dieu, la foi de Jésus, à savoir d'abandonner leur idole, d'accord, et de s'attacher à Dieu. C'est ça qui va déterminer les choses, mes amis. Si nous sommes vraiment des enfants d'Abraham, nous devons faire comme Abraham. Lorsqu'on croit à la théorie de l'Israël noir, on est aussi attaché à certains lieux. Il y a le mouvement panafricain, retourner en Afrique, c'est là le berceau de l'humanité, c'est là qu'il faut revenir. En fait, c'est très terre à terre tout ça. D'ailleurs, ce mouvement d'Israël noir, c'est très politique. Ça se rattache à tout ce qui est Martin Luther King, Nelson Mandela, j'ai oublié un nom d'ailleurs. Il y a un nom que j'ai oublié, mais je ne suis pas en train de dénigrer tout ce que ces hommes ont fait, en fait, d'accord? Ils ont lutté effectivement contre l'inégalité qui existait par rapport à l'esclavage, et cela, il fallait effectivement le faire. Il fallait qu'ils se mettent un terme à cela, d'accord? D'ailleurs, ça a été un tort du protestantisme, un péché de la part des protestants d'avoir était d'accord avec l'esclavage, ok? Mais ici, ce sur quoi je veux mettre le doigt, c'est le comportement que Abraham a eu, mes amis. Abraham n'était pas terre à terre. Il n'était pas quelqu'un qui s'était attaché à ce monde. En fait, Abraham n'avait même pas les yeux fixés sur la Canaan terrestre, en réalité. Hébreux 11, versets 8 et 9. Par la foi, Abraham, étant appelé, obéit pour aller au pays qu'il devait recevoir en héritage, et parti, ne sachant où il allait. Par la foi, il demeura dans la terre qui lui avait été promise, comme dans une terre étrangère. Remarquez ça, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Remarquez ce que Abraham attendait. La cité qui a des fondements est ton Dieu et l'architecte. En fait, Dieu attendait le royaume de Dieu, en fait. Le royaume de Dieu, de justice, qui va s'établir sous cette terre, mes amis, une fois que le péché sera éliminé. Et alors, toute cette terre renouvelée, mes amis, c'est cela la terre promise, la terre que Dieu nous promet. Heureux les débonnaires, les doux, car ils hériteront la terre, dit Jésus. Voilà la terre que Dieu nous promet. Ce n'est pas un petit morceau là, de terrain là, au Moyen-Orient. Ce n'est pas ça, mes amis, que Dieu nous promet. La terre que Dieu nous promet, c'est une terre tout entière, purifiée du péché, où nous pourrons vivre en paix, en harmonie, dans l'amour et sous le regard de Dieu. C'est ça dont Dieu nous promet, mes amis. Et tout cela nous est offert en Jésus-Christ. Que nous soyons blancs, noirs, chabins, jaunes, rouges, tout cela nous est offert en Jésus-Christ, mes amis. L'Évangile, mes amis, est pour tous. Et il y aura, et je dois dire, oui, il y a des Israélites noirs. Les Noirs qui ont accepté Jésus, ils sont Israël. Tout comme les Chabins qui ont accepté Jésus sont Israël. Les Blancs qui ont accepté Jésus, ils font partie d'Israël. Les Jaunes, les Rouges. Il n'y aura pas que des Noirs parmi Israël, parmi les 144 000. Mais il y en aura. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, cher ami, que la question que nous devons réellement nous poser, ou tout du moins la couleur qui devrait vraiment nous intéresser à ce stade de l'histoire, c'est est-ce que le sang de Jésus a coulé sur moi? Est-ce que par son sang, Jésus a réussi à me laver de mes péchés? Voilà la couleur, mes amis, qui doit nous intéresser. C'est le rouge, la couleur du sang de Jésus. C'est cette couleur-là, mes amis, que Dieu veut voir sur nous. Cette couleur-là. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes lavés du péché? C'est ça, en fait, que Dieu attend de voir. C'est ça qui déterminera notre appartenance ou pas à ce peuple. Et nous sommes à ce moment-là, nous vivons à cette époque où Dieu est en train de rassembler son peuple. Dieu est en train de rassembler les 144 000, mes amis. Il est en train, le scellement a lieu, il est en train de rassembler son peuple. Et il regarde, et il attend de savoir si nous allons accepter Jésus, si nous allons lui permettre de nous laver de nos péchés par son sang précieux qui a coulé pour nous. Que nous soyons blancs, noirs, jaunes, quelle que soit ta couleur de peau, mon ami, en ce soir, c'est le sang de Jésus qui doit couler sur toi pour te laver de tes péchés, afin que tu fasses partie du peuple de Dieu. Est-ce que tu le veux? Moi, je le veux. Si tu le veux avec moi, alors prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta bonté envers nous. Merci de ce que tu nous as donné Jésus, ton Fils, qui a versé son sang à la croix pour chacun d'entre nous, quelle que soit la couleur de peau que nous ayons, Seigneur, tu nous offres la possibilité de pouvoir mener une vie sans péché et de pouvoir être appelé tes enfants, faire partie de ton peuple, d'Israël. Alors aide-nous, Père, à mettre de côté et à rejeter toute théorie qui viendrait nous faire croire qu'il y a une race qui est plus avantagée qu'une autre dans le plan du salut. Mais que nous puissions, bien au contraire, aller vers Christ sans préjugés. Et au fur et à mesure que nous allons nous rapprocher de Jésus, eh bien, il sera manifeste et évident que nous allons nous rapprocher les uns des autres, quelle que soit la couleur de peau qu'est la nôtre. Alors, veuillez agir dans nos cœurs, Père, et que le sang de Jésus qui a coulé pour nous soit efficace dans notre vie, afin que nous puissions hériter de la terre promise, de cette terre que tu nous as promise, Père. Bénis-nous en ce soir et que ta paix et ta grâce reposent sur nous. Nous t'en prions, Jésus. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.